Vous pouvez retrouver le texte de l'épître de Pierre. On va poursuivre là où Patrick s'était arrêté. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, et on va lire du verset 8 au chapitre 4, verset 6. Et je vais lire dans la seconde 21. Enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez, au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, ce qui critique votre conduite en Christ soit couvert de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés, lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ils ont été sauvés à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême, qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Ainsi donc, puisque Christ a souffert, dans son corps, vous aussi, et armez-vous de cette même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais en suivant la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alors on a une grosse section encore ce matin. Pourquoi il y a des gros morceaux comme ça? En fait, je devais être absent normalement au mois de juillet, et donc l'idée c'était de terminer l'épître avant les vacances. Et vous pouvez trouver que ça fait vraiment, vraiment beaucoup, chaque fois. Bon, on fera mieux la prochaine fois. Hein. La quête du bonheur, l'aspiration profonde au bonheur est une saine motivation qui conduit les hommes et les femmes à la conversion, à se tourner vers Dieu. Le Seigneur lui-même a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, une invitation à venir à lui. Prenez mon joug sur vous, ajoute-t-il. » Ce qui fascine les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est de voir le bonheur des chrétiens alors qu'ils sont dans les problèmes, dans les difficultés. Ils sont quand même heureux. Et le titre de ce message pour nous ce matin que j'ai choisi, cherchons le bonheur selon le Seigneur et découvrons que nos souffrances en Christ ont du sens. Je vais donc parler de la souffrance ce matin comme notre texte en parle. Et ce sera très limité comme spectre. La souffrance ici dont il est question, c'est sur la souffrance que le disciple de Christ va rencontrer dans sa vie de témoignage. Et donc, je limiterai là-dessus. Hein. Ce ne sera pas donc... peut-être si vous souffrez actuellement, peut-être trouverez-vous pas la réponse ou la consolation dont vous avez besoin. Je m'en excuse. C'est vraiment limité là, sur un sujet vraiment précis, le lien entre la vie de disciple et la souffrance en ce qui concerne la recherche du bonheur. Seigneur, merci de m'assister dans mes paroles pour que le message puisse faire du bien et Seigneur qu'il... puisse venir de toi. Tu sais, Seigneur, toutes mes faiblesses et mes limites, l'étroitesse de mon expérience. Et Seigneur, tu sais également les besoins de chacun et de chacune ici, dans cette salle, sur ce sujet important que la vie de disciple, le témoignage, la souffrance, la recherche du bonheur et du bien. Seigneur, merci de nous aider. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Cherchons le bonheur selon le Seigneur. Alors, à qui s'adresse l'apôtre ? Ben, il s'adresse à tous les chrétiens. Il s'adresse aux administrateurs, aux administrés, ce qu'on avait vu le chapitre d'avant, l'épître de Pierre fait un tout. Toutes les idées sont enchaînées les unes à la suite des autres. C'est difficile de faire des découpes parce que vraiment ils présentent un ensemble. Et donc il a parlé la semaine dernière des autorités, il a parlé des ouvriers et des contremaîtres, ceux qui sont dans la position de chef, ceux qui sont dans la position d'exécutant. Il a également parlé des couples, des maris et des femmes. Et là, il s'adresse à tout ce public de chrétiens, à tout ce public de croyants. Par rapport à notre concept, notre contexte, on est peut-être, nous, la génération des Sims et la génération d'IKEA. On a grandi, pour beaucoup d'entre nous, avec les Sims. Vous savez, dans les années 2000, c'était le jeu à la mode et on avait des personnages virtuels dans un environnement virtuel et le but, c'était de les rendre heureux. Et il fallait faire des maisons bien décorées. Et puis voilà, on voyait qu'ils étaient contents. Et puis, il fallait remplir des réservoirs, là, quand ils avaient faim, il fallait qu'ils les nourrissent pour qu'ils soient contents, pour qu'ils aient de la satisfaction. Et on est peut-être, a été marqué par notre culture. On vit dans la culture IKEA, hein, passer l'après-midi dans un beau magasin, c'est une source de joie. Avoir un canapé confortable, une cuisine sur mesure, prendre, pouvoir déguster un café de la dernière machine qui fait le meilleur café que les autres. Et tout ça, c'est notre culture ambiante qui nous pousse là-dedans, dans ce bonheur-là. Et peut-être, comme moi, vous avez eu l'expérience de visiter ou de prendre place dans une belle maison. Il y a des personnes qui ont vraiment de très belles maisons là, comme même on ne voit pas à la télé, et c'est vraiment là, on est assis dans un fauteuil confortable, voilà, tout ça autour de nous. Ça semble chouette vraiment, et on ne peut pas dire que ce n'est pas bien, hein. Mais est-ce que c'est là le bonheur? Patrick, avait pris l'exemple c'était la semaine dernière, de l'exemple de notre président. Et c'est vrai qu'à l'Élysée, il doit être bien. Il est au top. Il a vraiment tout ce qu'il lui faut. Il a les gens qui le servent, bonne cuisine, bon cuisinier, pas de ménage à faire, pas de les gens qui repassent les costumes, tout ça. Tout est nickel. Et il est là avec sa femme. Et voilà, les conditions pour couler des jours heureux. Mais vous savez, ce que disent, on a rapporté que pourtant, ça chauffe des fois entre Brigitte et Emmanuel Macron. Des fois, il y a le torchon qui brûle entre eux. Et voilà, quoi qu'ils aient tout ce qu'il leur faut, il manque quand même quelque chose là. Dieu propose un autre type de bonheur. Mais il va falloir nous ouvrir un petit peu à ce bonheur qui nous est proposé, de changer de vision, changer de culture. Et donc, au verset 8, donc, nous avons une injonction d'amour. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. C'est une injonction d'amour. C'est un impératif que donne l'apôtre Pierre. Tout le monde est d'accord sur qu'il faut aimer, qu'il faut être bienveillant, qu'il faut avoir de la compassion. Ouais, c'est super. Mais quand c'est imposé, comment on peut pas imposer d'avoir des sentiments? Ça n'a pas de sens, tout cela. Nos sentiments pourraient-ils se soumettre en vérité? Pierre était un pasteur de référence. Et le Saint-Esprit a inspiré sa lettre. Et donc, il ne nous demande pas des choses impossibles. Il faut partir de ce principe-là. Si l'apôtre Pierre le demande, il sait, il connaît, c'est pas impossible. Et dans l'introduction de la lettre, voici ce qu'il écrit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, afin qu'il devienne obéissant. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Et donc, quand on a reçu l'Esprit Saint, vouloir penser que voilà, c'est impossible que nos sentiments ne peuvent pas devenir obéissants, revient à dire que l'Esprit Saint ne serait pas capable. Dieu ne serait pas capable de faire ça. On le sait, le Saint-Esprit a répandu l'amour dans nos cœurs et il peut changer et transformer nos sentiments. Verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, vous le savez. C'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter de la bénédiction. Nous avons des conflits. On est contrarié quand on a un PV. Moi, des fois, je reçois souvent les PV de limitation de vitesse. Et je ne suis pas content. Bien sûr, vous payez 45 euros. Mais je n'ai pas la pensée de dire, imagine, tu n'en as reçu qu'un. Mais pense à toutes les fois où tu as dépassé la vitesse et tu n'en as pas reçu. Il te faut être reconnaissant à Dieu. On a des conflits également dans notre travail, avec nos supérieurs, avec nos chefs. On a des disputes dans les couples. C'est comme de l'autodestruction. C'est dramatique, on le sait. Et Dieu propose ici d'en sortir comme Jésus l'a enseigné, en inversant la loi du talion. Ne plus faire le œil pour œil et le dent pour dent, mais au contraire, répondre au mal par le bien. Alors, comment faire pour bénir quelqu'un? Et il continue, versets 10 et 11. Il propose trois portes pour sortir des conflits et pour entrer dans le vrai bonheur. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Alors c'est ici qu'on sort des pensées du monde des Sims et d'IKEA et de tout le reste, pour entrer dans la pensée de Dieu pour trouver le bonheur. Et le premier point ici que nous propose l'apôtre Pierre, réapprendre à parler. Parler sans dire des paroles blessantes ou des mensonges. Il souligne ce point-là, la parole. Et on sait que la parole, si vous avez lu le livre des Proverbes, c'est un enjeu majeur. Les paroles qui sortent de notre bouche, c'est un enjeu majeur. Et l'apôtre Jacques le souligne dans son épître. Notre président a fait de grandes études. Moi, je regrette qu'il ne puisse pas lire l'apôtre Pierre. Là, il verrait que ce qui pourrait changer sa vie, apprendre à faire sortir des paroles parfumées, des paroles bonnes. Sa vie changerait, c'est sûr, et notre pays aussi s'en trouverait tellement mieux. Réapprendre à parler, voilà le secret du bonheur. Apprendre à parler. Apprendre à nous exprimer, apprendre à communiquer. Deuxièmement, fuir le mal. Fuir le mal, c'est déjà de l'identifier. Le salut est souvent dans la fuite en ce qui concerne le mal. Job, qui était un homme très sage, a déclaré s'éloigner du mal, c'est être intelligent. Il n'y a rien de neuf dans ce que l'apôtre Pierre veut nous apprendre, et on le sait, mais anticiper, identifier le mal et le suivre, et le fuir, pardon, excusez-moi, et le fuir. Faire le bien, au contraire. Comment on peut faire ça? Alors là, il faut être créatif. Comment faire le bien? Ben, si c'est au travail, on peut offrir un café à un collègue avec lequel on est en bis-bis. Quand dans un couple, je crois que les hommes savent quand même ce qui fait plaisir à leur femme. Et voilà, de faire quelque chose qui va faire plaisir à ma femme, je le sais. Même si on est en pleine tension là, je vais faire les choses qui lui font plaisir. Et la femme également peut faire les choses qui font plaisir à son mari et faire le bien. Fuir le mal, voilà ce qui conduit au vrai bonheur. Voilà comment on vit des jours paisibles et heureux ici-bas. Et il ajoute, chercher et poursuivre la paix. Patrick en a parlé la semaine dernière, et c'est vrai, le pardon est là, lorsqu'il y a eu un conflit, lorsqu'il y a eu une dispute, lorsqu'il y a eu un problème, le pardon permet de retrouver la paix. Mais l'apôtre ne vise pas le pardon ici. Il vise de conserver, de poursuivre la paix, de la préserver cette paix. Et donc d'être non pas passif, c'est simplement de dire ben, je vais corriger quand la paix est perdue, je vais essayer de la retrouver. Non, l'idée ici, c'est vraiment de conserver cette paix, de la poursuivre, de courir après. Et tout cela est tiré du psaume 34. Et le Saint-Esprit nous dit qu'il ne faut pas perdre la paix. Comment faire ? Anticiper, préparer le terrain, peut-être au travail, lorsqu'on on arrive sur un terrain miné, il faut le déminer. Les soldats, avant d'avancer quelque part, ils déminent, ils regardent prudemment, est-ce qu'il n'y a pas des trucs là qui vont exploser quelque part ? Et puis, c'est la communication, c'est l'explication, c'est trouver, rechercher le compromis, essayer d'accorder une même pensée, comme dit l'apôtre au début, avoir le même sentiment, une même direction. Et pour tout ça, il va falloir beaucoup, beaucoup communiquer. Tout cela ne s'en prend pas à l'école. Chercher et poursuivre la paix, fuir le mal, faire le bien et apprendre à bien parler. Voilà trois portes qui vont nous ouvrir le bonheur ici-bas. Ensuite, verset 12, être heureux, c'est avoir la faveur de Dieu. Voilà qui bouleverse complètement la façon dont les contemporains pensent. Être heureux, c'est avoir la faveur de Dieu. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Quelqu'un dira, la méthode de Pierre, c'est la faiblesse. Je préfère la méthode, moi, cour de récréation. Dans la cour de récréation, tu me bouscules, je te bouscule. Et puis, pour se faire respecter, la façon de faire, c'est de se défendre. On me rentre dedans, je te rentre dedans, je marque mon territoire. Voilà, tu cognes et tu te fais respecter. C'est ça, la bonne méthode. Quelqu'un dira, en faisant des efforts, par l'éducation, par la persuasion, on peut faire changer les choses à la longue, on peut avoir des résultats, et on a des résultats, peut-être. C'est tout à fait possible. Mais avoir la faveur de Dieu, c'est révolutionnaire. Parce que Dieu répond à nos prières. Dieu est tout puissant. La réponse aux prières de Dieu permet d'obtenir des résultats qui sont inenvisageables avec nos pauvres et faibles moyens. Avoir la faveur de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui va agir dans la prière. C'est la nuit et le jour avec nos efforts, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3, verset 20, cette puissance de l'Esprit Saint qui est en nous. Alors Jésus dit, et je les ai mis dans le désordre, heureux les cœurs purs, heureux les pauvres en esprit, heureux les miséricordieux, heureux les affligés, heureux ceux qui ont faim, ceux qui ont soif de justice, heureux ceux qui sont trop bons, heureux les artisans de paix. Et il termine, heureux les persécutés pour la justice. Heureux serez-vous quand on vous dira, connaissez la suite, quand on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal. Soyez dans la joie, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Et c'est ici qu'on rentre dans les choses douloureuses. Le bonheur accouche le bonheur dans la souffrance. Versets 13 à 18. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. Je crois que le bien souffre au contact du mal. Quand le bien rencontre le mal, il y a souffrance. Le bien souffre. C'est douloureux de se soumettre à un chef injuste et incompétent. C'est douloureux de le faire. C'est douloureux de se soumettre à un mari qui est égoïste. C'est douloureux d'avoir affaire dans le foyer avec une épouse dominatrice. C'est douloureux pour le mari. C'est douloureux de tendre l'autre joue. C'est douloureux d'être toujours de corvée. C'est douloureux d'accepter d'être le perdant. 1 Corinthiens 5, 7. Le bien souffre quand il rentre en contact avec le mal. N'ayez de aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre, à défendre l'espérance qui est en vous devant ceux qui vous demandent raison. Faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, ce qui critique votre bonne conduite en Christ soit couvert de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Pierre rappelle ici que la crainte de Dieu est fondamentale pour nous garder dans le bien. Toute la Bible enseigne que la crainte des hommes apparaît quand la crainte des dieux quand la crainte de Dieu a disparu. Le Seigneur doit rester le vrai Seigneur. C'est lui qui va être le vrai Seigneur de nos vies. Alors il ne s'agit pas de chercher la provocation, mais de dire avec douceur et respect ce qui concerne la vérité. Le Seigneur, la Seigneurie, pardon, de Christ sur nos vies va nous garder souffrants. Verset 18, Christ a souffert, et ce une fois pour toutes pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Afin de vous conduire à Dieu. L'œuvre de la souffrance de Christ. Pierre justifie son enseignement de toute cette marche dans la faiblesse, dans la souffrance, par l'exemple de Jésus-Christ. Christ a souffert pour nous amener à Dieu. La souffrance qui s'attache à la vie du disciple a donc en ce sens du sens, de ce côté-là, si on la voit dans cette perspective, du sens. De la même manière que les souffrances de Christ nous ont conduits à Dieu, les souffrances résultant de l'obéissance à Dieu vont contribuer à conduire l'autre à Christ. Ainsi, nos souffrances amènent autrui à Christ, qui amène à Dieu, qui amène la faveur de Dieu et qui amène le bonheur pour l'autre. Dans ce sens-là, une vie qui refuse de souffrir est une vie stérile, qui ne va pas communiquer, transmettre, faire se propager ce vrai bonheur. Alors, frères et sœurs, souffrons si telle est la volonté de Dieu. Jean 16, 21, le Seigneur a dit ceci. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. La souffrance en tant que disciple a du sens. Elle a du sens. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre le meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Et cela introduit la suite de notre texte, de la mort à la résurrection de Jésus. Je ne vais pas exposer ce texte, parce que ça ferait beaucoup trop. Alors l'apôtre Pierre, il est un enseignement très dense, et là il glisse des enseignements sur le baptême, il glisse des enseignements sur ce que le Seigneur a fait avant de monter au ciel, entre sa mort et son ascension. Alors, ça ferait beaucoup trop de choses de regarder tout cela. J'espère que personne n'en sera frustré. Et si quelqu'un est déçu parce qu'il attendait des réponses là-dessus, ben bon, dites-moi quand même, venez me trouver. On trouvera une solution, une prochaine fois peut-être. Ce que je voudrais retenir ici de tout ce passage, Jésus a souffert une mort humaine, il est rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Puis il parle de l'arche de Noé, de sa construction. Et puis ensuite, il enchaîne, ceci est une figure du baptême. Je retiendrai de tout cela que la mort, la résurrection du Seigneur, le témoignage que nous nous sommes engagés en tant que chrétiens, la perspective du jugement, tous ces thèmes qui surgissent un petit peu de ce passage-là vont nourrir la suite de son propos. Donc tout ça n'est pas là par hasard, mais puisqu'il y a aussi question de l'autorité, il y a question de la soumission, tous ces thèmes-là ne sont pas là par hasard. Mais on va les mettre entre parenthèses et simplement garder ces quelques idées à l'esprit pour voir la suite de notre texte, versets 13 à 18. Pardon. Chapitre 4, verset 1, jusqu'à la fin du chapitre. Verset 6. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants, en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, et autres beuveries ainsi que les idolâtries criminelles aussi, trouvent-ils étrange que vous ne participiez plus avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Voilà, petit enseignement qui est glissé là. À cette occasion. Alors c'est un passage qui est un peu difficile. On a un triple éloignement de ce passage-là. Pierre s'adresse à des chrétiens du 1er siècle qui ne disposaient pas du Nouveau Testament comme nous. Ils s'attendaient à ce que le retour de Jésus soit dans leur génération. Cette génération ne passe pas, que tout cela s'accomplisse avec Jésus. Ils vivaient dans une culture qui nous est étrangère. Les orgies, les dérèglements, l'idolâtrie étaient des institutions. C'était organisé, c'était planifié, c'était l'État qui était à la tête de tout ça. Et Pierre a déjà reçu des coups dans son corps pour sa foi en Jésus. Actes chapitre 5, verset 40. Et nous, non. Nous, on ne connaît pas ça. Alors, on est à une grande distance. Pierre savait qu'il mourrait en martyr. Et effectivement, ce Jésus lui avait dit, et la grande persécution de Néron, effectivement, quand on regarde l'histoire, eh ben, c'était proche, et ce n'était pas le seul qui allait mourir en martyr. Donc, il fallait préparer l'Église à cette idée. Donc on est éloignés, nous autres, d'un autre contexte du XXIe siècle. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, souffrir physiquement est de notre calibre que ce que nous connaissons. Et dans les contrariétés que nous pouvons avoir, les difficultés dans notre vie de témoignage, les souffrances que cela nous apporte, l'inconfort, souffrir physiquement, c'est autre chose. Satan avait dit à Dieu, touche à Job dans sa chair, et je suis sûr qu'il te renie en face. Du temps de Louis XIV, les Huguenots ont massivement été submergés par la crainte de l'homme. Ça a dépassé, ça les a dépassés, submergés complètement. Quand ils ont entendu les sévices que les dragons du roi faisaient subir à leurs frères dans telle ou telle ville, ça les a fait trembler de peur. Et lorsqu'ils ont, seulement quand ils les ont vus, ils ont, une immense majorité a renié la foi. Ils ont renié leur foi. Donc, souffrir dans son corps, c'est quelque chose, c'est une expérience. Et je rajouterai quatre remarques. Pierre parle bien ici des souffrances qui nous sont imposées. Jésus a dit à Pierre, « On te conduira là où tu ne veux pas aller. » Des souffrances à cause de Christ qui nous sont imposées. Deuxième remarque, notre souffrance n'a pas de vertu expiatoire. Ce n'est pas ce que veut dire l'apôtre Pierre, parce qu'il y a quatre autres passages où il précise bien que seul le sang de Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tache, expie les péchés et pas les souffrances que nous pourrions subir. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être très clair également. Troisième remarque, on ne peut pas atteindre la perfection avant le retour du Seigneur. Il précise ça, chapitre 1, verset 9, chapitre 5, verset 4. Il fait allusion au retour du Seigneur qui mettra fin à la souffrance et qui nous conduira à la perfection. Et au chapitre 4, verset 6, Pierre glisse donc un enseignement que l'on peut rapprocher d'un Thessaloniciens 4, 13. Oui, les chrétiens n'échappent pas à la condition humaine ordinaire. Ils meurent. Comme les autres chrétiens, ils subissent une vie avec ses aléas et des souffrances communes, comme les autres. Cependant, ils vivent en Jésus-Christ ressuscité. Donc là, on a vraiment le focus sur les persécutions en tant que disciples de Jésus-Christ. Je vais prendre une illustration par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine. Ce pays, vous le savez, a voulu se rapprocher de l'Occident. Il voulait se libérer du joug de la Russie qui les privait de liberté, qui les rendait des vassals, en quelque sorte. Voilà, ils ont voulu se débarrasser de ce joug qui pesait sur leur pays depuis des années. Et toutefois, il y avait une culture commune. Il y avait des liens familiaux entre les deux pays. Et il y avait une fraternité entre ces deux peuples. Et quand les bombes sont tombées, parties de la Russie jusqu'en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé? Le sentiment national s'est fortifié. Le désir de se séparer de la Russie s'est amplifié. Ils ont renversé la statue de Catherine II à Odessa. Ils l'ont déboulonné, ils ont changé la date de Noël, on fêtera plus Noël le 16 janvier comme en Russie, on l'achètera le 25 décembre comme en Occident. Et rien de cela ne serait arrivé si les bombes n'auraient pas tombé sur la tête. Et donc, ça nous offre une perspective pour les persécutions dures qui seront peut-être à venir pour nous. Alors c'est un enseignement que je n'impose pas à chacun, c'est un passage qui est très compliqué, donc voilà, c'est juste une perspective. Pierre nous prépare, veut nous armer pour les temps difficiles. La persécution dure, coupe les ponts d'avec les pensées mondaines. quelque part, et paradoxalement, la persécution des chrétiens dure leur rend service. Ça leur rend service. Ça va les pousser dans la sanctification. Mais pour autant, le mal qu'on fait aux chrétiens sera jugé. Le mal qu'on fait aux chrétiens sera jugé. Alors, en résumé, l'aspiration au bonheur est excellente. C'est une très bonne chose. Cependant, le vrai bonheur est de connaître Dieu. Et c'est ici-bas, il est accompagné parfois d'un lot de souffrances. Ces souffrances, on peut leur trouver du sens en ce qu'elles vont permettre que ce bonheur que j'ai, que de connaître Dieu, puisse se propager à d'autres à travers les choses que je vais souffrir. Il va y avoir un fruit qui va surgir de cela. La souffrance permet aussi de conserver ce bonheur jusqu'au retour de Christ, de ne pas revenir en arrière, de couper les ponts. Paradoxalement, les choses que nous pouvons souffrir peuvent parfois nous contribuer à notre bien, hein, ce qu'elles nous font nous éloigner du mal. Il y a certainement beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire sur ce passage, mais je voulais faire le focus pour nous cette semaine sur le bonheur d'un côté, la souffrance de l'autre, et que les deux ne sont pas incompatibles, et il faut faire confiance au Seigneur s'il nous demande de marcher dans une voie étroite qui est en rupture avec notre culture. Il faut accepter, écouter l'apôtre Pierre, qui est le pasteur par excellence. On ne peut pas trouver meilleur pasteur que l'apôtre Pierre. On recherche des personnes pour nous conduire, pour nous comprendre, pour nous... mais lui, il est vraiment au top. Et son enseignement est là, il a donné de bons conseils pour s'éloigner du mal, apprendre à bien parler, des choses toutes simples. Voilà. Je vous encourage à méditer ces choses. Je sais que ce message a des limites, il ne répondra pas à toutes vos questions, ou peut-être il passe à côté de points qui sont importants. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne, nous avons son esprit. On veut avoir la foi également. Seigneur, merci pour le soulagement que tu apportes de donner du sens à nos vies. Merci de ce que rien qui ne se passe et nous arrive ne soit sous ton contrôle. Tu as choisi que le bonheur parfait serait pour plus tard. Mais le meilleur bonheur qu'on puisse trouver sur la terre, c'est à ton écoute et à ton école qu'on le trouve. Ce qu'on peut trouver de meilleur sur la terre, c'est à ton écoute qu'on le trouve. Merci Seigneur de nous fortifier, de nous rendre fidèles, de ne pas nous, que nous ne soyons pas effrayés devant la souffrance, Seigneur, mais que nous comprenions que si telle est ta volonté. Dans le nom de Jésus.